La plus belle pépite du monde, par Jacques Cézambre. Après avoir longtemps chassé le kangourou et l'opossum à travers les forêts d'eucalyptus et le bush australien, nous avions gagné les abords du désert de David dans l'espoir d'y trouver de l'or. Nous nous reposions un soir sous la tente, mes compagnons et moi, quand l'homme se présenta. Nous étions à 100 lieues de présumer l'arrivée d'un blanc, en ce pays désolé, où nous n'avions aperçu personne depuis bien des jours. L'étranger était vieux déjà, grisonnant, fatigué. Je l'accueillis le plus aimablement possible, lui versai à boire et lui offris du tabac. Il semblait ému. Le soir, il nous raconta son aventure. Il s'appelait Bjork. « La pipe que vous m'avez offerte quand je suis arrivé, dit-il, est la première que j'ai fumée depuis 2 ans. C'est vous dire que je n'ai pas toujours été à la noce. » J'étais venu par ici avec des camarades dans l'intention, comme tant d'autres, d'y découvrir de l'or et d'y faire fortune. Tom, Jack, Donald et moi travaillons ferme dans un gisement pas très loin d'où nous sommes. Ne le trouvant pas bon à exploiter, nous le vendîmes et décidâmes d'essayer ailleurs. Nous avions été trop longtemps sur les confins du Devil's Belt, la ceinture du diable, pour ne pas connaître son histoire et ne pas avoir vu beaucoup de malheureux partir et ne pas revenir. Nous nous mîmes, cependant, en tête de réussir là où tant d'autres avaient échoué. Nous nous procurâmes un wagon et un attelage de jeunes bœufs aux pieds solides, et nous nous mîmes en route pour traverser le Belt. La saison avait été excellente et continua de même. Au bout de 3 semaines, nous nous trouvions dans une petite vallée qui, avec quelques barrières ici et là, serait pour notre bétail une retraite très sûre. Nous nous mîmes alors à la recherche de l'or. Nous découvrîmes la plus grosse pépite que le monde ait jamais vue. Elle était si lourde que nous devions employer nos bœufs pour la traîner. Une fois sur le wagon, elle dut y rester pendant 3 années. Il fallait attendre, en effet, que la pluie eût suffisamment tombé sur le Belt pour nous permettre de traverser avec le wagon en conservant quelques chances de succès. Nous avions une suffisante provision de munitions et des réservoirs contenant la quantité d'eau nécessaire pour faire un long séjour dans le désert. Mais ce fut un supplice de Tantal d'être obligé de rester là des mois et des années, à attendre que la pluie nous permît le retour, tandis que nous avions sous les yeux notre fortune faite. Nous fûmes attaqués 2 fois par des nègres qu'il nous fut relativement facile de mettre en déroute, car ils n'avaient pas de fusil. Le gibier abondait, et nous avions planté du maïs. Notre seule pensée et notre seul sujet de conversation était la pluie, ou plutôt, l'absence de la pluie, car plut-il à torrent de notre petite vallée, le Belt ne semblait même pas humide. Cependant, tout vient en son temps pour ceux qui savent attendre, et la pluie s'abattit enfin sur le désert. Nous attelâmes donc les bœufs, et nous voilà en route, espérant traverser, comme nous l'avions fait à l'aller. Nous avions effacé toute trace de notre travail, afin que, à moins d'un hasard tout à fait inattendu, l'endroit où avait été trouvée la précieuse pépite ne put jamais être découvert à nouveau. Plein d'espérance, nous affrontâmes donc une 2e fois les terreurs du Devil's Belt. La charge du wagon n'était en tant que charge pas bien lourde, mais 4 de nos meilleurs bœufs avaient été tués par les nègres, et bientôt 2 autres périrent. En dépit des nuages épais qui couvraient le ciel, la pluie avait cessé. Nous dûmes marcher à pied pour diminuer la fatigue de notre attelage. Bientôt ce fut le désert dans toute son aridité. Les quelques mares que la pluie avait partiellement remplies diminuaient de plus en plus. Un de nos bœufs s'embourba au bord d'un de ces petits marécages. Nous réussîmes à l'en sortir, mais il tomba malade, et pendant 2 jours nous restâmes arrêtés, croyant toujours que la pluie reviendrait, vaine espérance. Ne trouvant plus d'eau, nous décidâmes de changer notre route car nous connaissions plus loin un autre marécage. Nous espérions, après un peu de repos en ce lieu, entreprendre la dernière étape qui nous ramènerait aux régions habitées. Nous arrivâmes à ce port de salut après un terrible voyage. Jack partit en reconnaissance. Nous suivions sa silhouette à l'horizon. Comme il atteignait le haut de la dune, nous le vîmes lever les bras en l'air avec un geste de désespoir. Il était inutile qu'il vînt nous rendre compte de sa mission. Son geste nous avait suffi. Et nous l'avions compris aussi bien que si les mots « Dieu du ciel, la marée sèche » avaient sonné à nos oreilles. Nos pauvres bœufs étaient épuisés. C'en est fait de nous, mes amis. C'est aussi sec qu'un os. Tels furent les premiers mots de Jack quand il revint vers nous. Nous ne connaissions que trop bien la seule chance qui nous restait. Abandonner or, wagon et toute chose, excepté nos outres d'eau, et puis fuir à pied devant cette mort affreuse à laquelle n'avait échappé aucun de ceux qui, jusque-là, avaient voulu, comme nous, traverser le Devil's Belt. D'un commun accord, nous décidâmes de regarder une dernière fois la fameuse pépite, cause de tous nos maux. Un vent chaud soufflait du désert. Une rafale arriva, plus violente, et fit retomber la bâche qui cachait la pépite, si bien que l'extrémité de celle-ci apparut à découvert. Les parcelles de quartz s'étaient illuminées par le soleil, et ceci, joint à la forme du magot, lui donnait l'aspect d'une tête de mort avec une rangée de dents étincelantes qui semblaient nous narguer. Après tant d'années, tant d'heures d'angoisse, être obligé d'abandonner ce trésor qui, peut-être, allait nous avoir coûté la vie. Je n'essaierai pas de dépeindre nos sentiments à ce moment-là. Demander un effort de plus à notre bétail était inutile. La pensée que peut-être un jour des voyageurs essayant à leur tour de tenter la chance passeraient par là et s'empareraient de notre trésor nous était insupportable. Nous décidâmes que si nous devions à tout jamais l'abandonner, personne au moins ne le posséderait. En dépit du péril menaçant, nous enterrâmes donc le précieux magot et nous nous arrangeâmes pour n'en laisser aucune trace. Ne pouvant plus rien faire pour nos malheureuses bêtes, nous eûmes l'humaine pensée de leur laisser la liberté. Peut-être réussirait-elle à se sauver. Cette idée nous apporta d'ailleurs sa récompense en son temps. Nous nous assîmes à l'ombre du wagon et décidâmes que si jamais l'un de nous réussissait à échapper à la mort et à retrouver ensuite la pépite, il en ferait bénéficier les parents de tous ses anciens compagnons. Restait à partager notre dernière provision d'eau. Chacun prit alors dans la direction qu'il supposa la meilleure. Tom préféra revenir en arrière. Jack, Donald et moi, nous nous mîmes en quête d'un marécage. Nous errâmes pendant 3 jours, puis ma mémoire se brouilla. Un matin, je me trouvais seul au réveil. J'avais perdu le sens de la direction, mais j'établis qu'il était environ midi. Je me trouvai au pied d'un arbre et je découvris, pendu à ma bouteille, ce message, écrit avec de la terre dure. « Il y a de l'eau, tout droit devant toi. » Brave compagnon qui, dans un pareil sauf qui peut, et souffrant comme il devait souffrir, avait eu le cœur de m'amener à l'ombre de cet arbre et de m'y laisser ce réconfortant habit. Devant moi, la chaleur s'élevait comme d'une fournaise. Mes pieds se trouvaient en si piteux état que je ne devais pas songer à traverser le désert, et je résolus de mettre fin à mes maux avant que ma raison se fût égarée. Comme je cherchais mon revolver, j'aperçus à l'horizon plusieurs points mouvants. Quels êtres pouvaient donc exister dans ce désert de mort? Une pensée traversa mon esprit. Les bœufs. Ils flairaient sans doute l'eau. S'ils trouvaient l'eau, pourquoi ne la trouverais-je pas, moi aussi? Mes forces semblaient renaître et je partis dans la direction du bétail. Le matin suivant, j'eus la joie d'apercevoir une oasis. Je me sentis pris d'un désir insurmontable d'arriver à ce sanctuaire lointain. Je marchai jusqu'à ce qu'à bout de force, je me fusse écroulé sur le sol. J'essayai de me relever, mais en vain, et bientôt l'inconscience s'empara de moi. Quand je repris mes sens, ce fut pour essayer encore d'atteindre l'oasis, mais je compris que continuer ma route eût été courir à une fin certaine, et j'eus la force d'attendre le coucher du soleil. Alors je repris ma marche pénible. L'oasis semblait s'éloigner au fur et à mesure que j'en approchais. J'entendis enfin le chant des grenouilles, qui me sembla plus beau que la meilleure musique que j'aie jamais entendue. La lune illuminait pleinement le paysage, et je n'oublierai de ma vie ce qu'elle me montra cette nuit-là. Un trou très petit occupait le centre de l'oasis. Tout le reste n'était qu'une mare, avec une ceinture de roseaux secs. Je me dirigeai vers l'eau, quand mon attention fut attirée par 4 formes inanimées, étendues dans la boue. 3 de ces formes étaient nos bœufs. Mais horreur des horreurs, la 4e était un homme, mon camarade Jack. Tous 4 étaient morts, enlisés dans cette boue épaisse, dont on ne peut tirer sans secours. Cela me servit d'exemple et je trouvai le courage de réprimer ma soif jusqu'au moment où j'imaginais un autre moyen de me procurer de l'eau. De l'autre côté du trou, un arbre était renversé et les plus hautes branches pendaient dans l'eau tandis que le tronc formait une sorte de pont. À droite, parmi les arbres, brillait un feu de nègre. Je rampais dans cette direction. une autre scène d'horreur m'attendait. Je trouvais bientôt Donald étendu à terre, la tête brisée et le dos percé d'une lance. Je pris son revolver, jurant de le venger. Je commençai par boire cette eau, qui me semblait un nectar céleste, puis, oubliant le danger, je me plongeai dans la mare. Bientôt j'aperçus de nègres armés de lances qui se dirigeaient vers moi, traversant le tronc d'arbres renversé avec une agilité extraordinaire. Ils arrivaient cependant 2 minutes trop tard. L'un m'envoyait sa lance dans le bras gauche, mais déjà 2 coups de revolver lui répondaient et le jetaient inanimé, ainsi que son compagnon. Au bruit des coups de feu, d'autres sauvages accoururent. Je vis rouge et m'élançai sous le tronc d'arbre avec un revolver dans chaque main. Je chargeai les noirs comme une bête furieuse, et je vengeai bien ce jour-là le meurtre de mon infortuné camarade. Effrayés, les noirs prirent la fuite. J'ai été blessé, assez peu gravement du reste, et je compris que je devais, avant toute chose, m'éloigner pour ne pas laisser à mes ennemis le temps de se remettre de leur terreur. Je remplis d'eau ma gourde et celle de Donald, puis passant dans le camp abandonné par les noirs, je pris tout ce que je pus trouver de nourriture. Je m'enfuis alors, sachant bien que tôt ou tard, les sauvages reviendraient et me poursuivraient. Je ne possédais plus d'ailleurs qu'une seule cartouche. Le 2e jour, j'eus la joie d'apercevoir les collines. J'étais donc à peu près sauvé du péril du désert. Mais je me savais discrètement suivi par les noirs, qui, n'osant pas s'exposer à un nouveau combat, espéraient sans doute me prendre par ruse. J'étais guetté comme une souris par un chat. J'eus alors une idée géniale pour me débarrasser d'eux. Cette idée me vint en découvrant une très curieuse racine qui se terminait comme le pied d'un immense oiseau. Sur le sable, j'appliquai fortement cette racine, de façon à former de chaque côté de mes propres pas une formidable empreinte, comme celle qu'aurait pu laisser un être monstrueux. Je montai sur un arbre élevé et j'attendis. Les sauvages arrivèrent, suivant mes empreintes jusqu'à ce qu'elles fussent mêlées à celles que j'avais tracées artificiellement. Un cri d'horreur les arrêta, et ils s'enfuirent en criant « Le diable ! Le diable !» Je savais que rien au monde ne les ferait revenir. Ils pensaient que le diable les emporterait comme il m'avait certainement escamoté. Voilà comment je me tirai d'affaire, conclut Björk, les yeux rêveurs derrière la fumée de sa pipe. J'ai vu la mort de bien près, une mort particulièrement atroce. Et cependant, quelques jours je retournerai sans doute à la recherche du trésor, dont je suis seul maintenant à connaître la position exacte. Oui, oui, quelques jours, mais pas avant qu'une bonne pluie n'ait amendé le Devil's Belt. L'homme se tut. Nous avions écouté son récit avec la plus grande attention. Aucun de nous ne dut dormir dans le camp cette nuit-là. Seul Björk fut plongé dans un sommeil profond qui aurait suffi à prouver quel jour de peine il venait de vivre. La fièvre de l'or était dans nos veines. Le jour suivant, toute pensée de travail nous abandonna. L'étranger, lui, dormait toujours. Combien petites nous semblaient maintenant nos pépites d'or, grosses comme des pois, et nos grains de poussière brillants, cependant amassés au prix de tant de patience. Pourrions-nous conclure une entente avec Björk et participer à sa tentative pour retrouver la pépite enterrée dans le sable? Voilà l'idée qui nous hantait tous. Il consentit à nous prendre comme compagnons. Quelqu'un suggéra l'idée d'employer des chameaux comme moyen de transport, mais ces animaux venaient seulement d'être introduits en Australie et l'acquisition eut dépassé de beaucoup notre budget. Nous nous décidâmes donc pour un équipage de bœufs. En attendant la pluie, nous reprîmes courageusement notre travail, afin de nous procurer les fonds nécessaires à l'entreprise. La pluie semblait ne vouloir jamais tomber. En dépit des travaux d'irrigation entrepris sur les confins du Devil's Belt, le désert gardait toujours son impassibilité. Au bout de 2 ans, enfin, la pluie tomba et joyeusement, nous nous mîmes en route. Björk retrouva son chemin comme s'il l'eût parcouru la veille. Il nous conduisit droit à l'oasis dont il avait parlé. L'arbre gisait toujours en travers de la mare. Quelques tombes de sable indiquaient que des nègres avaient été enterrés dans le voisinage, mais le camp noir était abandonné. Sans doute les indigènes étaient-ils venus enterrer leurs défunts, puis avaient transporté leurs pénates, suivant une coutume qui veut qu'une tribu cesse d'habiter près du lieu où quelques-uns des siens sont morts. Cependant, nous approchions du terme de notre voyage, et chaque jour, Björk semblait plus anxieux. Avait-il donc oublié le chemin? Nous nous décidâmes à le questionner. J'ai longuement réfléchi, répondit-il, et peut-être n'ai-je pas le droit de risquer vos existences. S'il avait plu, j'aurais continué sans rien dire. Actuellement, vous avez encore une grande provision d'eau, et si vous désirez vous en retourner, vous pouvez suivre les empreintes du wagon. Il semble impossible que vous n'arriviez pas sain et sauf. Je vous laisse le choix. Pour moi, quelle que soit votre décision, je suis résolu à continuer. Nous avons passé l'endroit où gît la pépite. Rien n'a été bouleversé. Vous vous rappelez sans doute comment mon camarade Tom avait, au moment de notre sauve-qui-peut, préféré retourner en arrière au lieu de venir avec nous. Eh bien, mort ou vivant, je veux le retrouver avant de toucher au trésor. Entreprendre, dans de telles conditions, de rechercher cet homme pouvait sembler de la folie. Et cependant, aucun de nous n'eut la pensée de retourner en arrière. Silencieusement, nous serrâmes la main de Björk, car il arrive rarement de rencontrer un homme qui, à l'assurance de la fortune, préfère une mission aussi désespérée. La pluie ne tombait plus. Nous perdîmes plusieurs bœufs, mais nous arrivâmes en sûreté dans la vallée. Nous n'y retrouvâmes aucune trace de Tom. Björk découvrit une tribu de Noirs avec laquelle il avait été en bon rapport durant son premier séjour dans ce pays maudit, et finit par apprendre d'eux qu'un homme blanc avait été trouvé mort autrefois par un vieux nègre. Ce dernier avait recueilli une ceinture portée par l'inconnu. Björk la reconnut. La tâche qu'il s'était imposée prenait fin. À ce moment, la pluie se mit à tomber abondamment. Nous entreprîmes donc de traverser à nouveau le désert, mais quelques Noirs nous ayant attaqués en tuant nos bœufs, nous dûmes abandonner le wagon et retourner à pied à l'endroit où se trouvait enterrée la précieuse pépite. Nous ne pouvions plus la ramener, mais Björk voulait nous la faire voir afin de prouver la vérité de ses dires. C'était simplement bien agir vis-à-vis de nous qui avions tant perdu en l'aidant à accomplir sa mission. Le voyage à travers le désert fut fort long. Nous suivions les traces de notre wagon là où elles n'avaient pas été effacées par la pluie. Finalement, ces traces nous conduisirent à un grand lac. Nous en fûmes très étonnés, car nous pensions trouver peu d'eau, même dans la grande mare de l'oasis. Le lac semblait assez peu profond. Ayant été à sec pendant des années, il avait pu échapper à l'attention. Björk nous dit que la pépite devait se trouver au milieu de ce lac. Mais nous savions que ces pièces d'eau temporaires sont choses communes pendant la saison pluvieuse et qu'elles se dessèchent à nouveau très rapidement. Björk retrouva les restes du vieux wagon de sa première expédition et put ainsi établir à peu près le point où se trouvait la pépite. Nous abandonnâmes donc l'endroit, cherchant notre chemin à travers les eaux qui remplissaient le désert, et nous regagnâmes les lieux civilisés sans autre aventure. Nous nous procurâmes un nouveau wagon et un attelage et repartîmes, bien décidés à attendre que le lac fût à sec et nous permît de nous emparer du trésor. Les eaux semblaient d'une façon générale avoir diminué. Aussi qu'elle ne fut pas notre stupéfaction en nous apercevant que le lac était toujours aussi plein. Il n'y avait rien à faire, sinon à établir la position de l'ancien wagon et attendre encore. Une autre déception nous attendait. En dépit de toutes nos recherches, nous ne pûmes retrouver les traces de ce point de repère qui était pour nous de la plus haute importance, comme devant nous indiquer l'emplacement approximatif de l'or. La nature avait opéré en notre absence. Des tempêtes de sable avaient balayé tout le voisinage et, sans doute, les restes du wagon étaient-ils profondément enterrés maintenant. Une végétation soudaine s'était élevée alentour grâce à la présence de l'eau et cet embroussaillement devait gêner encore nos recherches. Les restes du wagon constituaient la principale clé, mais Björk, cependant, n'avait pas encore perdu l'espoir de retrouver le lieu où gisait le trésor. Nous nous mîmes à fouiller le sol dans le but de retrouver le wagon. Ce fut en vain. Le niveau du lac ne baissait pas. Une seule espérance nous restait. La pluie semblait bien ne pas vouloir réapparaître. Peut-être, dans quelques semaines, pourrions-nous retrouver enfin le trésor disparu. Le petit troupeau de chèvres que nous avions amené s'accrut, si bien que nous possédions de la viande en abondance. Attirés par l'eau, des animaux sauvages, parmi lesquels plusieurs chevaux, vinrent de plus se nourrir alentour de notre campement. Nous avions bâti pour nous une maison rustique à l'aide de buissons, de roseaux et de tiges de maïs, et pour nos bœufs un abri. Nous étions aussi bien installés que possible, et si parfois la pensée nous venait de tout abandonner, nous étions bientôt ressaisis par l'espérance de posséder un jour le fameux trésor et de devenir des hommes riches. Björk passait son temps à explorer le lac sur un petit canot fait de branchages et de peaux de chèvre. Un jour, il arriva vers nous, haletant. « Camarade, cria-t-il, le lac devient de plus en plus profond. » La foudre fût-elle tombée sur nos têtes, nous eussions été moins surpris. Nous tournâmes d'abord cette idée en ridicule, mais un examen des rives nous prouva que le niveau de l'eau s'était en effet élevé et de façon considérable. Le jour durant, il continua de s'élever encore. Il y avait là quelque chose d'incompréhensible. Au milieu de ce désert brûlant, le lac aurait dû se trouver à sec depuis longtemps. Ce mystère demandait une explication et naturellement, nous essayâmes de la trouver. La cause du phénomène n'était pas aussi mystérieuse que nous l'avions cru d'abord. Le lac était un déversoir de la grande mare à laquelle aboutissaient différents ruisseaux qui, grossissant pendant la saison des pluies, irriguaient la contrée et amenaient dans le déversoir le trop-plein d'eau. Un de ces ruisseaux, au lieu d'être desséché à nouveau comme les autres, venait de se transformer en torrent et continuait à déverser des trombes d'eau dans notre lac. Trois jours plus tard, il faiblissait à son tour, ou plutôt formait jusqu'à l'horizon des montagnes, une longue série de marécages à peine humides. L'explication était simple. Très loin, dans les districts civilisés qui avoisinent le désert, la pluie tombe souvent dans les montagnes. Les squatteurs de la plaine ont construit des digues et sans doute, l'eau détournée par une de ces digues avait-elle trouvé une ouverture, remplissant ainsi de temps à autre le cours d'eau. Le lac ne dépendait plus seulement des pluies locales et par intermittence les régions plus favorisées l'alimentaient. Bientôt le niveau augmenta encore et nous comprîmes que même si la crue s'arrêtait, il faudrait attendre des années avant que le sol fût sec à nouveau. Nous eûmes d'abord l'idée sauvage de chercher et de détruire la digue d'où nous venait tout le dommage, mais l'impossibilité de cette entreprise était trop claire et nous décidâmes à retourner vers le monde civilisé. Heureusement, nous ne revenions pas les mains complètement vides, car tout en cherchant le malheureux Tom, nous avions fouillé les anciens gisements où avait été découverte la fameuse pépite et nous avions mis à jour une jolie quantité d'or. Cependant, nous avions pu établir que cette remarquable pépite constituait une exception et que les terrains se trouvaient assez pauvres en métal précieux et difficiles à exploiter sans un outillage spécial. Lors de notre premier retour, nous avions dû abandonner cet or avec le premier wagon, mais en revenant sur les lieux avec un nouvel attelage, nous avions pu le ressaisir. Nous étions maintenant en possession d'un joli lot de chevaux errants qui aidèrent au retour. La pluie vint, nous nous mîmes en route, divisâmes l'or et nous séparâmes. Björk et Jones, l'un de mes camarades, décidèrent de retourner encore au lac. Beaucoup de gens se demandent pourquoi ils s'entêtent à rester dans un lieu aussi retiré, quand il y a tant de bonnes terres à exploiter. Ceux-là ne connaissent pas l'histoire de la pépite perdue. Les Noirs, qui visitent d'un temps à autre les bords du lac, y peuvent apercevoir une vieille silhouette à barbe blanche qui, dans les nuits de clair de lune, pagaie sur les eaux toujours plus profondes et les sonde à l'aide d'une longue perche. Ils disent que c'est Kuchi, le diable, mais moi je sais bien que c'est seulement Björk, qui essaie de retrouver le lit de sable sous lequel est ensevelie à tout jamais la plus belle pépite du monde. Jacques Cézambre.